Bonjour Cécile Delhomo et Anthony Poliquin.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à notre micro aujourd'hui pour parler de votre création scénique avec la compagnie Tamin Camarade. Ça s'appelle 12 femmes en colère, une pièce de théâtre intime inspirée de faits réels. Alors il faut remonter en 1975, une grève éclate à l'usine Trefi Métaux en Loire-Atlantique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette histoire ?
Oui, au départ, c'est une histoire tout à fait classique, une grève dans une usine. Les revendications sont la hausse des salaires. À l'époque, les ouvriers et ouvrières travaillent 46 heures semaine au lieu de 40. Donc, la diminution du temps de travail est une revendication. Bon voilà, en fait il y en a vraiment beaucoup cette année-là, des revendications, et le patron veut rien entendre, donc les ouvriers et les ouvrières de cette usine se mettent en grève. Je dis les ouvriers et les ouvrières, mais en fait sur 674 employés, il y a 68 femmes, donc il y a une très grande majorité d'hommes. Et puis, alors sans dévoiler toute l'histoire, mais ça commence donc par une grève tout à fait classique. Et puis, à un moment donné, les femmes d'ouvriers entrent en scène et demandent à être reçues par le directeur, par le patron. Et puis, c'est la rencontre entre ces femmes d'ouvriers et ce patron dans le bureau. Elles vont à un moment donné, le patron refuse et elles vont finalement pousser la porte pour pouvoir raconter leurs conditions de vie. Les salaires, en fait, sont des salaires de misère. À l'époque, certains logements n'ont ni eau courante, ni tout à l'égout. Et le patron, comment faire pour que ces femmes puissent raconter leurs conditions de vie ? Et elles finissent par rentrer dans ce bureau. Et cette irruption dans ce bureau prend un petit peu tout le monde de court, parce que finalement, la vie syndicale n'est pas habituée à ce genre de rencontre. Et puis voilà, toute l'histoire amène à, je ne sais pas si j'en dis davantage, si je peux le dire ça quand même, finalement, le patron finira par accuser ces femmes de séquestration. Voilà, c'est le début finalement d'une histoire de lutte.
Votre spectacle, il est à mi-chemin entre le documentaire radiophonique et les arts de la parole. C'est une création aussi qui est en lien avec donc un film documentaire, « Quand les femmes ont pris la colère », un film de Soizig Chapdelaine et René Vautier en 1978. Alors, quelle est la place du film dans votre création ?
C'est une place qui est à la fois extrêmement importante et qu'on essaye également de mettre un peu à distance. Je m'explique, elle est extrêmement importante parce que ce spectacle, nous avons décidé de le faire, notamment après avoir vu ce documentaire, ce film documentaire qui a été une véritable claque pour nous. C'est un film absolument magnifique avec des témoignages poignants et puis avec des parcours de politisation qui apparaissent dans ce film. Et c'est après une projection en plein air où Cécile et moi nous assistons à cette projection que l'idée de faire ce spectacle naît. C'est le point de départ. Tout l'enjeu ensuite, ça a été de dire mais comment faire pour que ces deux formes puissent coexister, puissent cohabiter, comment est-ce que ce spectacle finalement ne viendrait pas en quelque sorte couper l'herbe sous le pied de ce film, c'est-à-dire qu'on se retrouve à paraphraser ce film et à enlever l'intérêt de voir ce film une fois qu'on avait vu le spectacle, comment le rendre au contraire complémentaire, comment faire en sorte que ces deux objets puissent s'alimenter les uns les autres et gagner chacun en puissance. Et donc voilà, il a fallu qu'on pense ce spectacle sans raconter exactement la même chose que ce film, donc ça nous a obligés de le mettre un petit peu à distance. Mais on en parle, évidemment, dans le spectacle, aussi pour donner envie aux gens de le découvrir, avec une intuition qui était celle que nous avions au départ, que c'était possible de rendre ces deux films complémentaires, même de pouvoir ces deux objets complémentaires et même de les présenter à la suite, ce qui va être le cas demain soir à La Paillette, hein, puisque nous jouerons d'abord ce spectacle et ensuite le film sera projeté. Hein. J'espère que notre intuition était bonne et que le pari sera réussi.
Vous avez rencontré Myriam, l'une des 12 femmes en colère. Qu'est-ce que vous a apporté cette rencontre pour la création du spectacle ?
Anthony a parlé de l'importance du film dans notre décision d'imaginer faire un spectacle à partir de cette histoire. La deuxième élément qui nous a convaincus de faire ce spectacle, c'est la rencontre avec Myriam. Mais parce que nous, dans notre démarche à Ta Main Camarade, la dimension documentaire est assez importante. On a besoin d'ancrer nos histoires aussi dans la rencontre qu'on a avec les gens. Et donc voilà, des amis à nous avaient parlé de Myriam en disant « allez la rencontrer ». Et on s'était dit, avant de la rencontrer, on s'était dit « bon, ça va dépendre de cette rencontre. En fait, si ça se passe bien, si le courant passe, ça va nous... » Enfin, pour nous, c'était une condition, en fait, une rencontre nous inspire et nous donne envie de poursuivre. Et puis, donc voilà, elle nous a accueillis chez elle, Myriam. On a passé 1h30, 2h avec elle et on est ressorti de son appartement. On n'avait pas trop besoin de se regarder avec Anthony pour être convaincu que, oui, vraiment, on était convaincu de la nécessité de travailler sur cette histoire.
Effectivement, ce spectacle, c'est le produit de rencontres, alors de rencontres physiques, comme ça a été le cas avec Myriam, qui a été un vrai coup de foudre politique. Voilà, c'est-à-dire qu'on rencontre une femme qui a aujourd'hui 65 ans, qui est debout dans son histoire, qui porte des convictions et qui porte cette lutte encore 45 ans après. Et puis c'est des rencontres à distance avec l'œuvre notamment de Sonic Chapdelaine et René Vautier. Voilà, je pense que toute création, tout spectacle part de rencontres. Pour nous, ça a été la rencontre avec ce trio.
Les femmes qui sont racontées dans votre pièce, ce sont des femmes qui osent, qui se battent et qui cherchent à s'émanciper. Et c'est un thème d'autant plus d'actualité qu'on est dans la semaine du 8 mars. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur dans la création en général, le thème du féminisme ?
Merci de poser cette question. Ce que je peux dire, c'est qu'à Ta Main Camarade, bon, la couleur est donnée. On s'intéresse aux luttes ouvrières, paysannes, féministes, trois petits points. Mais oui, particulièrement, c'est marrant parce que ce spectacle, 12 femmes en colère, aujourd'hui, on le porte autant qu'il nous porte. Et en fait, je peux dire « je », enfin, aussi par rapport à cette dimension féministe, parce que ces femmes, dans l'histoire, au départ, elles ne sont pas du tout politisées. La plupart sont femmes au foyer, elles sont éloignées de la vie politique pour tout un tas de raisons. Et dans cette histoire, à un moment donné, elles se retrouvent propulsées égérie, alors qu'elles ont toujours été dans l'ombre, porte-parole d'un mouvement syndical, alors que certaines travaillent, mais la plupart, donc, en tout cas, ne sont pas salariées. Elles travaillent par rapport aux tâches domestiques qu'elles font à la maison. Et en fait, elles prennent conscience de leur condition de femme. Et elles vont, mais dans la lutte, elles prennent conscience de ça dans la lutte. Et ce qui est intéressant, c'est que les ouvrières qui travaillent à Tréfimétaux à l'époque ne sont pas constituées, n'ont pas constitué une section femmes. Alors à l'époque, c'est la CGT qui est le syndicat majoritaire. Elles n'ont pas constitué de section femmes, mais à l'issue de toute cette histoire, elles vont constituer une section femmes parce qu'elles ont des revendications propres par rapport à leurs conditions de femme. Et donc, voilà, pour nous, y a toute cette dimension très forte. Et puis, la dimension qui se rajoute et qui, là, moi, vient aussi me toucher personnellement, c'est comment ces femmes ont dû prendre la parole en public pour porter des revendications. Et cette question de la prise de parole en public pour une femme, c'est complexe parce que la condition historique des femmes, c'est le silence. Et aujourd'hui, moi, je suis conteuse, comédienne, je monte sur scène depuis longtemps maintenant. Je fais des spectacles, mais quelque part, c'est facile, entre guillemets, parce que les conditions de spectacle sont favorables. Il y a un public et là, les codes sont clairs. Une personne, une femme, monte sur scène, s'exprime, les gens écoutent. Bon. Mais quand il s'agit de prendre la parole dans une assemblée, porter des convictions, aller sur le débat politique, alors là, c'est une autre affaire. Et ces femmes, elles ont fait ça. Et voilà. Et j'essaye aussi, on essaye de raconter cette dimension-là aussi. Prendre la parole en public pour une femme, c'est gravir une montagne. Et pourtant, il faut le faire.
Vous l'évoquiez tout de suite, le thème du milieu ouvrier, il n'est pas nouveau dans votre compagnie, puisque vous avez déjà créé Ouvrier Ouvre-la, sur l'histoire de deux ouvriers syndicalistes. Qu'est-ce que vous voulez rendre visible dans ces combats politiques et syndicaux ?
On aime se référer à une phrase d'un historien états-unien qui s'appelle Howard Zinn, qui dit « Tant que les lapins n'auront pas d'historien, l'histoire sera racontée par les chasseurs ». C'est-à-dire que toute la stratégie de la classe dominante, toute la stratégie de la bourgeoisie, pour faire vite, puisque c'est la bourgeoisie qui, depuis 2 siècles et demi maintenant, a pris le pouvoir dans nos régimes capitalistes, c'est d'invisibiliser les victoires populaires, c'est d'invisibiliser les conquêtes populaires. C'est-à-dire de renvoyer à la classe dite dominée, aux classes populaires, à la classe ouvrière, un sentiment d'impuissance. C'est la fameuse phrase de Margaret Thatcher, « Tina, there is no alternative, il n'y a pas d'alternative, le capitalisme a gagné. L'histoire est finie, point final. » Nous, on pense qu'au contraire, cultiver l'espérance, cultiver l'idée qu'un monde autre est possible, c'est de montrer que des gens ont osé par le passé, et qu'il y a même, ça a même été soldé par des conquêtes et par des victoires. Quand je dis que l'idée, c'est de raconter des histoires par le bas, et non des histoires par le haut, comme l'enseignement de l'histoire est régulièrement fait, par exemple. Je donne toujours cet exemple. Si on pose la question au commun des mortels, qui a créé la sécurité sociale, les gens répondent, c'est De Gaulle qui a créé la sécurité sociale. Donc ça, c'est l'histoire réécrite par les vainqueurs, c'est l'histoire réécrite par les dominants. Hein. Pas du tout. Enfin, je veux dire, De Gaulle était un farouche adversaire de la sécurité sociale. La sécurité sociale a été créée par la classe ouvrière, par une CGT ultra-puissante, par des ministres communistes qui se retrouvent au gouvernement contre le choix de Gaulle. Et voilà, il a fallu le travail d'un intellectuel, Bernard Friot, l'intellectuel peut-être le plus précieux le précieux actuellement pour le mouvement social, pour réhabiliter cette histoire populaire. Modestement, humblement, c'est ce que nous essayons de faire, de réhabiliter ces luttes sociales par le bas, ces mouvements populaires, ces mouvements sociaux, d'entretenir notre puissance d'agir par ces récits, cette phrase également de Ken Loach que nous aimons citer, qui dit « Notre travail consisterait à défier le récit des puissants », ce que nous essayons de faire, défier le récit des puissants.
Dans la description de votre pièce, on peut lire que pour mettre en scène ce combat politique, vous avez choisi la sobriété pour décor et les mots pour personnage. D'abord le décor donc, pourquoi ce choix de la sobriété et comment est-ce que ça se traduit sur scène ?
On est dans une démarche un peu... Déjà, on a envie de pouvoir jouer dans plein de lieux différents et pas forcément des lieux liés, dédiés au spectacle. Cette histoire, si on peut aller la partager dans un local syndical, dans une bibliothèque, dans le jardin de nos voisins... Oui, dans une salle de classe, pour nous, ça fait sens, en fait. Ensuite, on n'est pas... on a une économie un peu sobre. Et du coup, ça nous va bien aussi de travailler avec peu de moyens. Et puis, on vient aussi du récit. Donc on a un ami conteur qui dit souvent ça, le conte c'est le cinéma du pauvre, parce qu'un conteur, une conteuse, juste à travers les mots peut donner à voir des images et on se fait, chaque spectateur, chaque spectatrice fait son film intérieur. Nous on aime bien ce rapport-là au spectacle, et voilà, c'est pour ça qu'on est dans une forme assez très simple, en fait. C'est vraiment très très simple.
On aime bien cette idée que On l'a utilisé d'ailleurs ce mot par le passé sur des formes qu'on a pu inventer ensemble avec Cécile. Ça fait une dizaine d'années qu'on travaille ensemble. C'est un peu comme si on se donnait rendez-vous pour une veillée. Voilà, moi je suis engagé dans un autre mouvement qui est celui des conférences gesticulées. Pareil, une conférence gesticulée, c'est un objet tout terrain qui peut se jouer à n'importe quel endroit. Et en fait, on vient, on se donne rendez-vous et puis comme à une veillée d'antan. Hein, et puis on n'a pas besoin de passer la journée à installer des décors, il y a nos mots qui sont là, il y a nos corps qui sont là, il y a des regards, et puis la soirée se passe à partir de ces ingrédients, et puis ça nous va très bien.
Et finalement, vous l'évoquiez tout à l'heure, justement il fallait trouver quelque chose qui soit complémentaire au film. Pour vous, qu'est-ce que peut raconter le théâtre ou le conte, donc comme vous le dites, que ne raconte pas le film? Qu'est-ce que c'est la singularité de votre pièce?
Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, parce qu'on a parlé du film, on a parlé des rencontres, on peut s'appuyer sur un autre élément qui est quand même important, c'est que Trefimetto, c'est une usine qui a vraiment marqué les personnes qui ont travaillé là-bas. Et cette usine a fermé, et il y a une association qui s'appelle Une Tour, Une Histoire, parce que Trefimetto avait une grande tour, la fameuse tour à plomb. Et cette association, en fait, fait un travail incroyable de mémoire autour de tous les enjeux, en fait, qu'il y a eu au sein de cette usine. Et il y a un livret, donc l'association édite des livrets. Un des livrets concerne particulièrement cette lutte qui a eu lieu donc en 1975 et qui est truffé en fait de références, d'anecdotes, d'articles de presse de l'époque. Il y a des photos. Enfin, c'est une mine d'or en fait. Nous, on s'est énormément appuyé dessus. Et ce que le film ne raconte pas finalement, c'est un peu, enfin, ou peu, c'est tout le. Parce que Soizic Chapdelaine et René Vautier sont arrivés au moment où le patron avait déjà fait savoir qu'il accusait ses femmes de séquestration. Donc il y avait déjà une démarche judiciaire en cours. Mais c'est tout l'avant, en fait, tout l'avant. Comment, en fait, la grève s'est déclenchée? Qu'est-ce qui a poussé ces femmes à rentrer dans le bureau du directeur? C'est ça que le film raconte assez peu. Et que nous, on a essayé de raconter en s'appuyant notamment sur tous ces documents d'archives qui sont très, très précieux.
Merci beaucoup, Cécile Delhomeau et Anthony Pouliquen.